On va parler de CELI ce matin. Oui. Tu as eu le témoignage d'un jeune auditeur.
Oui, j'ai parlé récemment du CELI, de ses limites et du pourquoi on ne devrait pas imposer le CELI, mais peut-être imposer un plafond. Et je ramène les gens au rapport Godbout. Vous savez, le fameux rapport sur la fiscalité québécoise demandé par les libéraux en grande pompe et tabletté en grande pompe. Mais la recommandation 48 disait « Faudrait peut-être plafonner le CELI parce que ça va créer » éventuellement avec le REER et le supplément de revenus garanti, certaines aberrations. Et un jeune m'écrit hier, Paul, il me dit, regarde...
Là, un CELI, c'est un compte qui est libre d'impôt.
Oui, libre d'impôt. Tu prends ton argent net d'impôt, tu le mets là-dedans, puis c'est plus jamais imposable. OK,
okay, puis il y a des plafonds.
Il dit, moi, j'avais 24 ans. Il dit, peut-être j'étais chez mes parents à l'époque, mais ça m'a permis d'épargner, de mettre de l'argent de côté dans mon CELI, tranquillement, même pendant mes études, si bien que j'ai commencé à travailler, puis à 24 ans, j'avais 25 000 $ Ce qui est quand même beaucoup, Paul.
Oui.
Là, il a profité de la pandémie parce qu'il a investi ça en bourse. Et pendant la pandémie, son argent a fait 90 % de rendement. Évidemment, il y a des placements, là, il y a des choses. Il y a des choses spéciales qui sont passées dans son portefeuille. Mais si bien qu'aujourd'hui, il y a 67 000 $ en CELI. Alors, j'ai fait un petit calcul, Paul, pour le plaisir des auditeurs. 67 000 $ en CELI. En 2021, ça veut dire qu'à 66 ans, s'il laisse ça là-dedans sans plus jamais mettre d'épargne de sa vie, il va avoir 689 000 à 6 % ou 472 000 à 5 %.
Ouais, mais ça, c'est rare, quelqu'un qui... à son âge qui fait ça, là, il n'y en a pas tant que ça. Là.
Mais il n'y en a pas tant que ça, Paul. C'est une stratégie qu'il y a beaucoup de jeunes qui voient. Et on parle de 26, 27 ans, on ne parle pas de 20 ans. Là. Mmh. Donc, on parle de gens qui ont fait un choix logique, parce que probablement qu'ils travaillent dans une institution financière et qu'ils ont vu la logique du CELI. Et donc, ce que je te dis là-dedans, c'est que lui, il dit, garde ça, là. Je vais avoir probablement un demi-million avec ça à ma retraite facile. Si j'arrête d'épargner à 26 ans, je vais avoir payé ma maison qui va être libre d'impôts aussi. Donc, il dit, c'est mathématique. Les gens, puis là, je renchéris sur son courriel, j'en mets plus, là. Il sera millionnaire, Paul. Et il le sait déjà à 26 ans, si tout se passe bien, sans épargne supplémentaire dans son REER ou son CELI.
Là, tu parles de millionnaire libre d'impôts.
Oui, dans 40 ans, par contre. Oui, oui, millionnaire non. Dans 40 ans, ce sera pas plus millionnaire affaire, aujourd'hui.
C'est, sûr.
C'est juste pour dire que c'est pas une aberration ou une vue de l'esprit de penser que le CELI est une arme de destruction massive fiscale. Il dit, sérieusement, tu sais, un jeune de mon âge, puis là, je l'amalgame avec un autre témoignage d'une autre personne. Les jeunes de notre âge, on a l'avantage que votre génération, puis ils me parlent au vous comme si j'avais 48 ans, comme si votre génération n'a pas eu, parce qu'effectivement, le CELI est démarré en 2009. Et donc, moi, en 2009, Paul, j'avais déjà 30 ans. Donc, mon épargne, moi, elle était dans le REER, mais si j'avais eu leur âge et le droit au CELI à la même époque, probablement, je l'aurais mis plus dans le CELI, parce que j'aurais de l'argent libre d'impôt beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et donc, ce qu'on tient à souligner ici, et ce que les jeunes de la finance comprennent, c'est que si le gouvernement n'agit pas, ils seront non seulement aisés à la retraite grâce au CELI, puis qui est correct, c'est un logiste.
Ben, il n'y a pas beaucoup d'outils pour le citoyen là, pour
non,
trouver de l'impôt.
Non, c'est un bel outil. Mais le problème, c'est qu'on fait un amalgame entre, ce que je dis, c'est plafonner les cotisations au CELI, c'est-à-dire mettre un moment donné un plafond, pas toujours améliorer, pas augmenter, et le fait de dire que ça devrait devenir imposable. Moi, je suis l'apôtre du CELI. Si CELI, c'est Jésus... Moi, je suis pas celui qui l'a trahi, je suis un autre. Tu comprends? Le coq aura chanté trois fois, mais je serai encore là. Alain Promkin sera fier de moi. Et donc, Paul, tout ce que je sous-entends, c'est qu'il va falloir qu'on réfléchisse collectivement à ça. Et j'aimerais ça qu'on le fasse pas dans la violence verbale ou dans les courriels. On le fasse dans la compréhension collective.
Comme dit M. Biden, dans la sérénité et oui. Avec une baisse de la température.
Puis je suis le premier à dire que le CELI, c'est la plus belle des choses, Paul, pour le contribuable moyen. Mais si le contribuable moyen, j'ai déjà à peine les moyens de mettre 10 000 dans mon CELI au total. Je dis, pourquoi tu te fâches si je dis que le plafond devrait être 100 000 comme dans la commission Godbout d'abord? Tu ne l'atteindras pas. Donc, tu vois, c'est ça qui est drôle. On a le désir de ne pas payer d'impôts, mais on ne voit pas la limite de tout ça et le problème collectif que ça va créer quand on sera plus vieux.
Parle-moi de la Banque du Canada.
Ben oui, Banque du Canada qui dit, Paul, 2023, ce sera le moment où on reviendra à une économie qui aura rattrapé ce qu'on avait avant la pandémie. Hey, 2023... Si je me ramène en 1995, quand j'étais en secondaire 5, pas 2023, ça avait l'air du futur. C'était 8 ans après Marty McFly, tu comprends? Et là, on nous dit, en 2023, donc, on est en 2021, la pandémie a commencé en 2019 en Asie, Et là, on nous dit que c'est pas avant 2023 qu'on va revenir à la normale. Mais ce que ça nous envoie comme signal, comme contribuable, c'est que nos taux d'intérêt vont demeurer bas. Et c'est ce qu'on sous-entend ici. On nous dit, garde le 0,25 de taux directeur, on va rester là. Mais pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire, au mois de janvier 2020, ça fait pas si longtemps,
non.
Le taux directeur est à 1,75. Donc, 1,5% de plus. Et tous nos taux variables étaient orientés par rapport à celui-ci. Et donc, on a eu un rabais sur nos taux par rapport à nos taux préférentiels majeurs. C'est pour ça que vos taux d'intérêt sur votre prêt hypothécaire, si vous êtes intéressé un petit peu et vous aviez un prêt variable, vous payez moins cher d'intérêt. Mais le problème, c'est le signal que ça envoie aux nouveaux acheteurs. Présentement, tu peux te prendre un prêt hypothécaire 1 an, 3 ans, 5 ans, variable ou fixe, peu importe. Tu peux avoir du 1,6, 1,7%. 1,7% sur un prêt hypothécaire de 5 ans. Ça t'envoie le signal que la vie coûte pas cher, que le financement est pas cher. Et donc, les nouveaux acheteurs arrivent sur le marché immobilier et prennent cette référence-là pour négocier leur prêt hypothécaire et négocier le prix de la maison. Et ce qui me fait peur là-dedans, Paul, c'est que l'ancien gouverneur de la Banque du Canada nous disait tout le temps, un taux d'équilibre directeur, pas hypothécaire, directeur, c'est entre 2,5 et 3,5. Et c'est notre objectif. Et avant la pandémie, c'est ce qu'on visait à atteindre éventuellement. Donc, ramener un peu la surchauffe immobilière à la bonne place au niveau du prêt variable et évidemment, les obligations de
ça veut dire, achetez-vous une maison que vous serez capable de payer dans 3 ans, mettons.
C'est-à-dire
que,
mettons dans 5-6 ans, parce que vous pourrez geler votre taux pendant 5 ans et avoir la paix. Mais il
faut pas
se
être prêt à gorge quand ça va.
Mais quand ça va remonter. Puis surtout, de ne pas penser que ça va être beau. En plus, Paul, on voit à Montréal que le marché locatif et l'équilibre n'est plus atteint. Là. On est rendu à 6% d'inoccupation à Montréal à cause de la pandémie. Donc, être propriétaire aujourd'hui d'un immeuble à revenu qu'on habite, c'est pas magique. Pour avoir des locataires, ça prend un beau logement.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée, Pierre-Yves. Il est 7h23. La 40.